France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'un des habitants les plus emblématiques des cours d'eau, le castor. Pourquoi dit-on qu'il est le meilleur promoteur de la biodiversité des rivières ? La liste des bienfaits de ce gros rongeur semi-aquatique est impressionnante. Ces barrages jouent un rôle bénéfique sur la biodiversité, la qualité de l'eau, le cycle du carbone et les nappes phréatiques, dont on connaît l'importance cruciale. Animal architecte et ingénieur, expert en bûcheronnage, il façonne les paysages, fabrique des zones humides. Cette espèce clé de voûte, longtemps chassée et considérée comme innuisible, a bien failli disparaître de la planète. Protégée depuis 1968 en France, notre histoire avec elle n'est pas un long fleuve tranquille. Castor, les dents de la rivière. Cécile Auberçon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste spécialiste du castor en Suisse, collaboratrice scientifique pour le service conseil castor de Infofauna, le centre national de données et d'informations sur la faune de Suisse, et la co-autrice du livre « Les mille vies du castor » aux éditions Salamandre en 2024. Nous sommes en ligne également avec Rémi Louglia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé aux universités de Caen, Normandie et de Tours, président de la Société nationale de protection de la nature, la SNPN, et l'auteur de l'ouvrage « Vivre en castor, histoire de cohabitation et de réconciliation » paru en 2024. Et nous serons rejoints dans quelques instants par Paul Hurel, coordinateur national du réseau Castor à l'Office français de la biodiversité. Merci en tout cas à vous tous d'avoir accepté notre invitation ici, en direct dans nos studios sur France Culture. Et merci à vous d'être là, au rendez-vous, à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et merci également d'être de plus en plus nombreux sur Blue Sky. Vous retrouverez sur notre compte plein de ressources pour compléter votre écoute. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors pourquoi et comment construisent, comment les castors s'y prennent-ils pour construire ces barrages? Quel est leur impact sur les écosystèmes et pourquoi réintroduire le castor en France? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. On part sur la piste du castor, nous sommes en 1969.
C'est un gros animal qui pèse en moyenne 25 à 30 kilos et qui peut, dans les cas extrêmes, atteindre 50 kilos, ce qui est vraiment assez étonnant pour beaucoup de gens. Quand quelqu'un voit pour la première fois un castor avec son air préhistorique, il est assez impressionné. Moi, le premier, j'ai toujours un petit sentiment d'étonnement, non, presque de frisson sacré quand je vois ce gros animal sortir de l'eau, entraînant son corps et sa queue avec des airs lents de reptiles.
C'est antédiluvien.
Tout à fait, oui.
Est-ce que c'est méchant ?
Absolument pas. Chez les castors, c'est la bonté pour tout le monde, sauf pour les autres castors. Je ne parle pas des castors de sa famille, parce que ce sont des familles très unies. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de société de castors, c'est une légende. Les castors vivent en famille, qui peut aller jusqu'à une dizaine ou une douzaine de membres, au grand maximum. Et les immenses travaux faits par les castors sont faits par une famille simplement.
Il y a ici, devant moi, à 1m50, déjà une réserve de rondins qui commence à s'élever. Et tout à l'heure, le père Richard me montrait justement une hutte qui faisait peut-être, 50 centimètres au-dessus du sol. Mais ici, ils sont surtout, je crois, en terrier, n'est-ce pas ?
J'avais une hutte ces années dernières, mais à force de faire des expériences dessus, j'ai même introduit la lumière et la télévision. Et les castors, ayant horreur d'une lumière même très faible quand il s'agit de leur abri, ont fini par abandonner la hutte qui est retournée à l'état de nature, c'est-à-dire qu'elle s'est effritée. Mais par contre, ils ont construit à côté un terrier qui était en train de devenir une hutte, c'est-à-dire que, à partir de la galerie qui est creusée dans la berge, ils sont en train, depuis un certain temps, d'accumuler du bois, et quand la hauteur de ce tas de bois sera suffisante, disons 1 mètre ou 1,50 mètre au-dessus de l'eau, à ce moment-là, ils abandonnent le terrier d'origine, et ils se mettent à creuser dans ce grand tas de bois, comme s'il s'agissait d'une berge naturelle, pour se faire un logement.
Voilà un extrait de l'émission Dimanche à la campagne diffusée sur France Inter en 1969. Cécile Auberçon, est-ce que vous aussi, comme dans cette archive, vous ressentez un frisson sacré à la vue d'un castor ?
C'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Non, mais je me réjouis à chaque fois que je peux en voir, que j'en ai la chance d'en voir un dans la nature. Je trouve ça assez génial aussi, oui.
Alors, là, on entendait un certain nombre de caractéristiques autour de cet animal. Comment vous aussi, le regard que vous portez sur lui, qu'est-ce qu'on distingue de ce mammifère ?
Oui, alors effectivement, quand on le voit dans l'eau, on distingue pas grand-chose. C'est une fois qu'il est sur la terre ferme qu'on peut vraiment se rendre compte de cette taille. Hein. Vraiment, ils l'ont souligné, impressionnante. Ça peut faire jusqu'à 30 kilos, donc c'est plus lourd qu'un chevreuil. Hein. C'est vraiment un gros, gros animal. C'est le plus gros rongeur indigène qu'on a par chez nous. Et puis, cette allure un petit peu peut-être aussi pataude qu'il pourrait avoir sur la terre ferme avec ses, ses grosses pattes postérieures, des petites pattes antérieures. Et puis forcément, la queue écailleuse. Hein, je pense que c'est le signe distinctif du castor que tout le monde connaît.
Voilà, le plus gros rongeur d'Europe et le deuxième au niveau mondial derrière le capybara. Rémi Louglia, est-ce que vous aussi, comme dans cette archive, vous êtes surpris à la vue d'un castor ?
Oui, parce que c'est assez saisissant quand le castor sort de l'eau. Effectivement, dans l'eau, on le voit pas beaucoup et il émerge assez peu. On ne se rend pas bien compte de sa taille. En plus, il est très très agile, très vif. Par contre, quand il sort de l'eau, tout de suite, on voit que c'est une grosse bête, le castor. Hein. C'est une grosse bête, mais comme Bernard Richard le disait dans votre archive, très paisible. Et donc, il est assez placide quand il sort de l'eau, il s'ébroue, il a des interactions aussi tout à fait intéressantes. Et c'est vrai que votre extrait était assez émouvant d'entendre comme ça Bernard Richard parler de ces castors dont il faisait un peu l'élevage, comme il le disait, en région parisienne. Et en fait, il les étudiait, à vrai dire. Et parce que Bernard Richard, c'est quand même un personnage clé dans les années 1950 à 1980 en France sur la sauvegarde des castors et leur réintroduction. Donc voilà, c'est un moment assez émouvant.
Sur l'histoire de leur sauvegarde et de leur réintroduction, ça nous verrons évidemment tous ces aspects-là, mais plutôt en deuxième partie d'émission. Pour continuer sur leurs caractéristiques physiques, ces rongeurs semi-aquatiques, on peut continuer à décrire hein, leur particularité, puisque le castor est quand même super équipé pour la nage et la plongée.
Si on veut parler de la nage et de la plongée en premier lieu, on peut parler des pattes postérieures qui sont palmées, hein, qui ont vraiment une palmure comme les canards par exemple, qui vont permettre de vraiment propulser l'animal. Il y a aussi la fourrure qui est assez exceptionnelle, c'est une des fourrures les plus denses du règne animal avec jusqu'à 23 000 poils par centimètre carré. Elle est constituée de types de poils différents. Le poil de bourre qui va vraiment apporter l'isolation, la chaleur, et les poils de jarre qui apportent l'étanchéité. Et cette fourrure tellement dense, tellement chaude, elle a causé, entre guillemets, la perte du castor hein, aussi. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard. On pourra développer
bien,
ça.
Bien sûr.
Ouais. Et puis après, il y a aussi la queue qui sert quand même aussi beaucoup à la nage en faisant office de gouvernail pour lui permettre de s'orienter plus facilement.
C'est ça, on a une queue d'une trentaine de centimètres en moyenne pour la queue qui, Rémi Louglia, lui sert de gouvernail. Et le castor peut même donc nager avec un morceau de bois dans la bouche.
Oui. Alors la queue sert de gouvernail, sert aussi de propulseur, hein, elle est très musclée et donc il est capable de s'en servir aussi pour se propulser ou pour taper sur l'eau, on pourra en reparler, c'est un bon signal d'alarme. Mais voilà, toutes ces capacités que Cécile a bien décrites, elles peuvent être complétées. Effectivement, il a une troisième paupière pour pouvoir nager les yeux ouverts. Et puis, il est capable de nager avec un morceau de bois dans la bouche et il fait l'étanchéité avec ses lèvres. Il est même capable de ronger du bois sous l'eau. Voilà, et donc il est vraiment très équipé pour le milieu aquatique.
Ah, et Paul Hurel, vous venez de nous rejoindre. Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Nous étions en train de faire un petit portrait robot des castors. Nous étions en train de voir comment le castor était un animal fait pour l'eau. Et on vient de voir en effet qu'ils peuvent nager avec un morceau de bois dans la bouche. Ils ont cette forme générale en torpille. Ils peuvent tenir 15 minutes en apnée. On n'a pas encore parlé de leurs dents, qui est une de leurs caractéristiques également, Paul Hurel.
Oui, c'est effectivement le plus gros rongeur d'Europe, hein, deuxième au monde après le capybara, et voilà, il se caractérise vraiment très bien par ses deux paires d'incisives qui lui donnent cette faculté effectivement de couper l'arbre, les différents boisements assez facilement, et puis une pression de mâchoire assez forte aussi, donc c'est assez caractéristique sur l'animal, et puis Rémi en parlerait mieux que moi, mais on a effectivement eu aussi beaucoup cette utilisation des dents à une certaine époque, et aujourd'hui c'est plus maintenant un critère un peu d'observation à se dire, tiens, c'est potentiellement un castor, avec bien sûr les risques de confusion avec d'autres rongeurs comme le ragondin, mais voilà. C'est une des autres caractéristiques, en plus de la queue plate, qui est vraiment là pour le coup le vrai critère discriminant pour l'espèce.
Cécile Auberçon.
Ouais, sur les dents, on peut encore peut-être juste rajouter cette particularité de l'émail qui est incrustée de particules de fer qui lui donne toute sa dureté, et puis aussi les racines ouvertes des incisives. qui permettent aux dents, en fait, de, aux incisives de croître pendant toute la durée de la vie de l'animal. Ce qui fait qu'en rongeant, la partie externe étant plus dure que la partie interne, elles vont s'aiguiser pendant l'acte de rongeage, quoi. Et ça leur permet de pouvoir garder une dentition à même de couper les bois les plus durs durant toute leur vie.
Ces dents, ce sont des sécateurs, et le castor armé de sa patience peut abattre n'importe quel arbre, Rémi Louglia.
Oui, ils sont capables de couper. Alors, ils préfèrent couper les bois tendres, c'est quand même plus facile, plus aisé, mais on les a déjà vus couper des chênes, des châtaigniers, voire de l'acacia, également des conifères. Enfin, ils sont capables de couper toutes sortes de bois, et puis des gros, hein, 20, 30, 40, 50 centimètres de diamètre, 1 mètre aussi. Enfin, la taille de l'arbre ne leur fait pas peur, ils s'y prennent en plusieurs étapes, ils prennent un peu de temps pour faire ça, mais ils sont vraiment, vraiment très équipés pour couper le bois, oui.
Très équipés pour couper le bois, et on connaît bien ces constructions emblématiques, Cécile Huberson. Les castors font 4 types de constructions, leur habitat d'abord, ils sont 3 types, il y a les terriers, les huttes et les terriers-huttes.
Ouais, donc il y a une confusion qui est très largement répandu, c'est que les castors vivent dans les barrages. J'entends souvent ça, alors que non, c'est pas le cas. Hein. Ils vivent vraiment dans des nids, des sortes de nids qui vont se créer eux-mêmes en amont du barrage. Le barrage sert à garder, maintenir l'entrée de la hutte, du terrier hutte ou du terrier sous l'eau. Mais il va vraiment pas servir comme habitation. Puis donc la hutte, c'est vraiment cet amas de bois classique qu'on a vu dans Yakari. Enfin voilà, très très la représentation idéale du castor. Chez nous, dès que les berges sont assez pentues, assez meubles, et qu'il va pouvoir creuser dedans, il va plutôt préférer aller creuser, s'installer un terrier dans la berge, plutôt que devoir rassembler un gros amas de bois dans lequel il devra ensuite creuser. Parce que c'est moins de travail forcément de juste faire un peu de fouissement et puis après aller s'installer dans la berge. Et s'il creuse trop près de la surface, ça peut arriver, il peut y avoir un effondrement de ce terrier. Et c'est là en fait qu'il va transformer son terrier en terrier hutte en le couvrant avec des branchages. Et ça donne cette forme intermédiaire en fait entre le terrier et la hutte.
Oui, c'est ça, c'est que échafauder une hutte ou un terrier hutte, ça demande du travail, Rémi Louglia, et c'est un travail très ingénieux.
Oui, en fait, c'est une vraie qualité du castor, c'est de construire des ouvrages qui ne sont pas simplement des tas de bois ou des tas de terre, mais il y a une technique de construction qui les rend assez résistants, parfois même très résistants. Et donc, il va notamment mettre les morceaux de bois qu'il va sélectionner dans un certain sens dans le cours d'eau, puis il va les croiser avec d'autres morceaux de bois, et il va rajouter après des branches d'autres types. Il va y entremêler de la boue, il va entremêler des feuillages, des branchages, il va y rajouter des pierres, de la terre, et il va ainsi construire des ouvrages, alors je parle de ces barrages, qui sont assez résistants, assez solides, et qui vont bien remplir la fonction pour laquelle il les avait conçus. Le castor est aussi un très bon creuseur. Il creuse très bien le sol, il peut creuser des canaux, il creuse des terriers comme cela. Donc voilà, il a toutes ses capacités d'ingénieur, on va dire. On utilise un terme humain d'ingénieur en fait, hein, mais il va façonner son environnement.
Paul Hurel, comment et pourquoi justement le castor construit-il ces barrages qui, on vient de le dire, ne sont pas leur habitat ?
Donc voilà, encore une fois, la création des barrages va pas être systématique, mais en tout cas, si elle arrive, il y a vraiment cette question, d'immerger l'entrée de son terrier et de s'assurer finalement qu'il est à l'abri d'éventuels prédateurs, d'éventuels gènes pour la reproduction. Et puis aussi sa quiétude à la journée, au quotidien, puisque l'animal se trouve dans son gîte aussi, une bonne partie de la journée et puis quelquefois aussi un peu la nuit. Et au-delà de ce stimulus, c'est un peu de se préserver d'éventuels prédateurs ou gènes. C'est vraiment de façonner son habitat pour faire en sorte qu'il soit, avec un niveau d'eau suffisant pour étendre sa zone d'alimentation et accéder aussi à un territoire qui soit vraiment propice pour son écologie avec cette présence d'eau et puis l'arrivée aussi d'espèces finalement qui vont être favorisées, d'espèces ligneuses qu'il va pouvoir consommer. Donc c'est vraiment un formidable ingénieur des écosystèmes.
Voilà, le barrage le plus long du monde a été construit par des castors canadiens. Il fait 850 mètres de long et il est visible depuis l'espace. Moi, généralement, ça ne dépasse pas les 100 mètres. Alors quel est l'impact écologique de ces barrages et du castor ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons de cet animal extrêmement étonnant, le castor. On en parle avec Cécile Auberçon, Rémi Louglia et Paul Hurel. On vient de voir que dès que le castor se sent menacé, il va plonger pour se mettre à l'abri. Et plus le niveau de l'eau est grand, plus c'est facile pour lui de plonger. Et pour ça, il construit des barrages. Quel est l'impact du castor sur la biodiversité et les services rendus aux écosystèmes? Pour répondre à cette question, Cécile Auberçon, entre 2020 et 2023, vous avez mené une étude à ce sujet. Les résultats sont assez fous.
Ouais, donc c'est une étude, déjà je vais juste rajouter, qui a été mandatée par l'Office fédéral de l'environnement. Et puis, au niveau biodiversité, effectivement, on a des résultats qui sont assez impressionnants. On a étudié plusieurs groupes, donc les amphibiens, les poissons, les écrevisses, les odonates, les macrophytes et le macrozoobenthos. C'est les petits invertébrés aquatiques qu'on peut retrouver. Et dans cette étude, on a vu que si on considère... deux tronçons de rivière qui sont rigoureusement identiques, à l'exception près qu'il y en a un qui abrite des barrages de castors, qui abrite des castors et l'autre pas. On voit que on a une diversité spécifique, donc le nombre d'espèces qui va être multiplié par 3 dans le territoire des castors, là où il y a des barrages, où il y a des canaux, où il y a des activités du castor. Et on a aussi une abondance, donc un nombre d'individus multiplié par 14. C'est des chiffres qui sont assez exceptionnels, qu'on aimerait bien retrouver dans des projets de protection de la nature que nous pourrions faire directement, nous les humains. On y arrive en règle générale quasiment pas.
Rémi Louglia, en effet, c'est que ça augmente ces barrages, augmente la faune et la flore, à la fois en diversité d'espèces présentes, mais aussi en abondance de chaque espèce.
Et les travaux cités par Cécile qu'ils ont menés viennent confirmer d'autres travaux de la littérature qui ont été faits en Angleterre, en Écosse ou dans des pays d'Europe de l'Est, et aussi pour l'espèce canadienne aux États-Unis et au Canada, et qui démontrent que la présence de castors sur un site précis, mais surtout tout le long de cours d'eau, vont considérablement diversifier les écosystèmes. Ça va créer des mosaïques extrêmement importantes qui vont rendre les écosystèmes plus résistants, plus résilients quand il y a des crises, et qui vont favoriser la diversité biologique et on va dire la production. Donc ça, comme le dit Cécile, quand nous humains, on essaye de mettre en place des projets de cette nature-là, on n'obtient pas de tels résultats. Pourquoi ? Parce que le castor, il a cette expérience propre à cette espèce de façonner comme cela depuis des millions d'années les cours d'eau, notamment d'Europe. Et il va déployer des techniques très minutieuses qui vont lui permettre, comme cela, d'améliorer cette biodiversité en s'adaptant très strictement au contexte du territoire et du cours d'eau. C'est-à-dire qu'il ne va pas déployer dans chaque cours d'eau les mêmes techniques. Il va vraiment être en prise avec son milieu. Et cette explosion de vie provoquée par la présence du castor, c'est quelque chose qui est assez formidable. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour la nature et les humains, parce que derrière cela, il y a énormément de fonctions écosystémiques qui peuvent être consolidées et qui sont bénéfiques, évidemment, à la biodiversité, mais aussi aux sociétés humaines.
Oui, il façonne ses cours d'eau, et ça aussi, c'est un impact, Cécile Auberçon, sur la qualité de l'eau.
Oui, la qualité, on a aussi regardé divers paramètres, notamment le carbone organique dissous. Les nitrates. Donc, le carbone organique dissous, il va être issu de la décomposition de la matière organique, hein, que ce soit les feuilles ou les algues, et il est important pour les chaînes alimentaires aquatiques. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans les territoires où il y a le castor qui est présent, il y a une augmentation de ce DOC et une diminution des nitrates. Il y a une étude de 2021 de Anne-Grethe Larsen, qui a même montré qu'il y avait une réduction de 20% des nitrates grâce au barrage de castor, ce qui est quand même assez important. Quand on sait que nos cours d'eau sont quasiment tous très fortement pollués, malheureusement.
Parce que la qualité de l'eau, puis aussi, il y a un effet sur l'hydrologie, Paul Hurel, dans le réseau castor. On reviendra sur ce réseau dans quelques instants, mais dans ce réseau, il y a tout un volet sur l'étude de la recherche autour de castor, et notamment pour étudier les effets des barrages sur l'hydrologie.
Oui, alors c'est un des... Je ne vais pas forcément trop nuancer les propos de Rémi et Cécile, parce qu'effectivement, on a quand même des... On va dire que c'est une bonne nouvelle pour la nature d'avoir ce façonnage en fait de l'habitat par le castor, mais ça pose quand même des questions au niveau de l'hydrologie. Et c'est vrai qu'au niveau de l'OFB, on a vraiment cette nécessité de en fait questionner les différents compartiments qui vont être touchés par le castor. Et en fait, ça vient, ça vient en fait questionner plusieurs directives. Non, excusez-moi, j'étais en ville. En fait, j'ai dû courir un petit peu, je suis navré. Ça vient en fait questionner plusieurs positionnements, à la fois sur la présence de l'espèce et sa préservation, effectivement, mais aussi la qualité de l'eau, qui est régie par la directive 4 sur l'eau. Et donc, ça nécessite, si vous pouvez passer par là, quelqu'un d'autre, je suis désolé.
Il n'y a pas de problème, on vous laisse reprendre votre souffle et vous mettre confortablement dans un endroit tranquille. Je vais me tourner vers vous, Rémi Loulia, par rapport justement à l'impact des castors sur l'hydrologie. En Grande-Bretagne, par exemple, ou encore en Écosse, on a des castors qui sont réintroduits pour restaurer des cours d'eau.
Oui, tout à fait. C'est une démarche tout à fait intéressante. Alors, ces réintroductions pour restaurer les écosystèmes, il y en a certaines qui ont eu lieu dès les années 1920-1930, notamment au Canada. Et en France, c'est cette idée-là, par exemple, dès les années 60-70, on a eu des réintroductions dans l'objectif de restaurer des milieux avec la présence du castor. Donc, ça fait bien longtemps qu'on sait que la présence du castor peut avoir des effets positifs. Alors, dans certains cas, évidemment, on transforme le milieu, donc on peut imaginer qu'il peut y avoir des impacts, notamment sur les activités humaines, on en reparlera. Mais c'est vraiment une idée nouvelle, face au changement climatique notamment, d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire d'utiliser les pouvoirs de la nature pour restaurer les cours d'eau et améliorer la situation. Et le castor est un formidable acteurs, notamment pour éviter les inondations et les sécheresses sur les cours d'eau, parce que quand il fait des barrages sur des petits cours d'eau, sur l'ensemble du cours d'eau, il va retenir l'eau. Retenir l'eau, ça veut dire la faire pénétrer le sol, ça veut dire recréer des zones humides, et cette eau va pouvoir être restituée en période de sécheresse, ou elle va pouvoir être conservée en période de forte pluie, et donc limiter les effets des inondations. Et ça, c'est des bonnes nouvelles aussi pour les humains.
Ça, il recrée des zones humides qui reconnectent les territoires secs et humides ensemble, Cécile Auberçon.
C'est exactement, c'est vraiment le point critique en fait. Donc, nos cours d'eau, ils ont été intensivement dégradés à partir, disons, du 19e siècle par là autour. Il y a les grandes corrections des cours d'eau qui ont été lancées avec des canalisations, des mesures d'enrochement. Et petit à petit, donc, on a fait en sorte que nos cours d'eau amène l'eau d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et cette vitesse a fait que les cours d'eau se sont progressivement incisés, donc ils sont entrés plus profondément dans le sol, et ils ont perdu la connexion latérale qui existait avec l'environnement. Ils ont perdu cette connexion, ils ont perdu aussi la connexion avec les nappes phréatiques. Et c'est ça aussi, notamment, qui cause les problèmes de protection contre les crues qu'on peut voir aujourd'hui. Parce que le paysage hydrographique qui entoure nos cours d'eau est plus en lien avec les rivières. Donc les terrains environnants peuvent plus fonctionner comme une espèce d'éponge, comme ils fonctionnaient à l'époque. Ils arrivent plus à absorber une quantité d'eau aussi importante. Et le castor, en venant construire ses barrages, il permet un dépôt des sédiments plus important et un rehaussement progressif du fond du lit du cours d'eau, quoi. Et ça, tout ça, ça va avoir un impact sur la nappe, parce qu'aussi quand le barrage permet la création de brasses secondaires ou l'inondation des terres adjacentes, on a vraiment cet effet hyper important sur tout l'environnement. Et je vous parlais de ces résultats sur la qualité de l'eau. Pour avoir des tels résultats, il faut vraiment avoir cette connexion latérale qui se reforme. Si on a simplement un cours d'eau dans un barrage dans un cours d'eau qui est très très incisé, on va pas directement observer de tels effets. Ce qui amène vraiment les points positifs du castor sur les services écosystémiques, c'est la recréation de milieux humides, de milieux alluviaux. Pour encore citer, voilà, depuis le XVIIe siècle, il y a près de 90% de nos milieux humides qui ont disparu à cause, voilà, des drainages, etc. Et puis, on a vraiment besoin de recréer tous ces milieux.
Et puis, en fait, plus la zone humide créée par le castor est importante, plus ses effets sont positifs. Et aussi, on voit des effets sur le cycle de carbone. Quand je disais que la liste est longue, Cécile Auberçon.
Oui, on a aussi étudié cet effet du castor sur le stockage du carbone. On a étudié ça sur un seul site, mais durant une année entière. Et là, les résultats qu'on a sur ce site de Martalen, en Suisse, c'est que l'installation du castor à un endroit où il y avait, avant l'arrivée de l'animal, il y avait une forêt fermée, hein, une forêt production fermée. À cet endroit-là, on a 3 fois plus de carbone qui est stocké par rapport à ce que la forêt pouvait stocker avant. Donc c'est un véritable puits, en fait, un puits net de carbone. Et en termes de chiffres, on a un stockage de 63 tonnes de carbone par an sur une surface d'à peu près 10 hectares.
Alors ce castor et ces bienfaits qu'on vient de détailler ensemble, bah depuis les années 60-70, on a l'idée donc de l'utiliser, hein, tout ce potentiel pour favoriser ce castor pour que les paysages soient plus résilients aux crises à venir. Tout ça, ça nous emmène à la longue histoire des relations entre les êtres humains et les castors. Dans quelques instants, on vous raconte tout. Frisco Beaver de Goat en direct sur France Culture, car nous parlons de castor en compagnie de nos 3 invités du jour. Cécile Auberçon, biologiste spécialiste du castor en Suisse, collaboratrice scientifique pour le service Conseil Castor de Infofauna. Rémi Loulia, professeur agrégé, docteur en histoire, chercheur associé aux universités de Caen, Normandie et de Tours, président de la SNPN, et Paul Hurel, coordinateur national du réseau Castor à l'OFB. On vient de voir qu'ils sont donc les meilleurs alliés pour restaurer la biodiversité des rivières. Leur impact sur les écosystèmes aquatiques ne s'arrête pas là. Les barrages exercent notamment une grande influence sur la qualité des eaux. Mais notre relation au castor ne coule pas de source. Rémi Loulia, hein, cette histoire-là, on peut remonter au néolithique, dans ses premier temps entre humains et castors quand ils ont commencé à cohabiter ensemble.
Oui, en fait, l'histoire des relations entre les castors et les humains, c'est une histoire de très longue durée. Et pour notre espèce, hein, donc sapiens, elle remonte à quelques dizaines de milliers d'années. Les castors étaient présents en Europe, ils avaient façonné depuis plusieurs millions d'années l'ensemble des cours d'eau. Et quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se promenaient dans le territoire européen, eh bien, ils profitaient des travaux des castors, ils profitaient de leurs barrages, ils profitaient des zones ainsi créées et des bois coupés. Dans plusieurs cas, et c'est même assez nombreux, les implantations humaines, quand ils ont commencé à se sédentariser, se sont faites directement sur des sites où il y avait des castors, parce que c'était des endroits qui étaient défrichés, qui étaient déboisés. Et puis, la sédimentation derrière les barrages créait des sortes de petits champs avec beaucoup d'alluvions qui ont été les supports des premières cultures, la première agriculture des Européens. Donc on a vraiment cette histoire positive au début de notre humanité.
Oui, en France, on a à Clairvaux, dans le Jura, on a les traces d'un village proche d'une tourbière établie vers 5600-5500 avant notre ère, qui associe sur les mêmes bois les marques des dents de castor et de hache. Donc en quelque sorte, Émile Loulia, les premiers défricheurs, ce n'était peut-être pas nous.
Ah ben c'était même sans doute les castors, et il faut s'imaginer, hein, avec les, les conditions techniques de la préhistoire, couper un arbre, couper des branches, ce n'était pas si aisé, ça demandait beaucoup d'énergie aux humains. Bon, les castors qui font le travail à notre place, de façon très efficace, c'était sans doute très bienvenu pour les humains.
Il y a eu une deuxième phase où on a commencé à considérer que le castor était utile, mais seulement une fois mort, Émile Oulia. On l'a dit, on l'a évoqué en première partie d'émission, mais le castor a failli disparaître à cause de sa chasse commerciale intensive.
Oui, c'est une histoire, c'est une phase là d'à peu près 4000 ans, dans lequel les humains, une fois qu'ils ont créé leur village, qu'ils se sont bien implantés, ils ont développé les populations humaines. Et ils se sont mis à chasser le castor, d'abord modérément, et puis de façon de plus en plus importante. Comme Cécile le rappelait en commençant, la fourrure du castor, c'est vraiment un objet qui était extrêmement utile aux humains parce que chaud et imperméable. Et donc les castors ont suivi cette chasse commerciale de façon assez prononcée. Et puis ça a amené les populations à diminuer progressivement, puis de façon assez rapide, jusqu'à arriver vers le 19e siècle à des populations européennes qui étaient réduites à un millier peut-être d'individus, donc un niveau extrêmement bas, avec 5-6 populations fragmentées dans toute l'Europe. Donc le castor était à ce moment-là proche de l'extinction.
Autre produit commercialisé, outre la fourrure de castor, alors on a fait pas mal d'exemples hein, comme symbole de prestige social. Il y a Charles VI qui commande 450 chapeaux en fourrure de castor en 1388, le célèbre bicorne de Napoléon en feutre de fourrure de castor. Autre produit de luxe, Cécile Auberçon, le castoreum, qu'est-ce que cette substance ?
C'est une substance un peu huileuse que le castor va utiliser pour marquer son territoire principalement. Et elle était très utilisée, très recherchée pour la pharmacopée et l'industrie du parfum, pour la parfumerie.
Du parfum,
ouais. À l'époque, quand il n'y avait pas... aujourd'hui, elle est toujours utilisée, mais sous forme synthétique. Mais pour ce qui est de la pharmacopée, le castoreum, c'était vraiment la substance qui soignait tout. Il y avait vraiment pas un mot qui pouvait pas être, j'exagère un petit peu, mais qui pouvait pas être guéri par ça. Puis il y a peut-être quand même un petit peu de juste hein, là-dedans, parce que c'est vrai que les castors, on l'a pas vraiment évoqué, mais ils se nourrissent beaucoup de bois tendre, notamment de saule. Et puis en faisant ça, ils accumulent de l'acide salicylique dans ce castoreum. Et l'acide salicylique, c'est un des composants qu'on va retrouver aussi notamment dans l'aspirine. Donc voilà, pour certains mots, c'est probable que effectivement il y a quand même une utilisation, enfin une fonction fébrifuge ou quelque chose comme ça qui puisse vraiment marcher.
En effet, les castors ont failli disparaître en Suisse en 1820. Il n'en restait plus aucun.
Ouais, c'était la tour de ces années-là où le dernier castor a été tué, éradiqué de Suisse, malheureusement.
Émile Oulia, on a une troisième phase qui a commencé donc à la fin du 19e siècle avec ce basculement. C'est à ce moment-là qu'on commence à trouver un intérêt pour cet animal et on l'utilise donc pour ses bienfaits qu'on a décrits il y a quelques instants.
Effectivement, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'il y a un basculement qui va se produire. D'abord chez les scientifiques, les naturalistes, qui vont s'alarmer de voir les populations de castors disparaître progressivement de beaucoup de pays d'Europe, comme en Suisse, mais c'est 1848, le dernier castor qui est tué en Belgique, par exemple. En France, il disparaît du bassin de la Seine en 1888. Donc petit à petit, toutes ces populations s'éteignent et les savants vraiment vont s'alarmer de cela. Et ils vont demander à ce moment-là la protection des derniers castors. Alors c'est assez étonnant, puisque le castor à l'époque était considéré comme étant nuisible. Étant donné qu'on l'avait tellement chassé, il avait perdu son intérêt commercial, il n'y en avait pas assez pour faire une activité économique, donc ne restait des derniers castors que leurs activités qui pouvaient gêner les humains, par exemple en creusant des terriers dans des digues ou en faisant des barrages sur des petits cours d'eau. Et à ce moment-là, les derniers castors ont été pourchassés par un certain nombre d'humains. Bon, voyant cela, les savants se sont alarmés et ont recommandé de protéger ces derniers castors, malgré le fait qu'ils étaient à l'époque considérés comme nuisibles, parce que pour eux, il fallait sauver ces derniers représentants d'une espèce qui était essentielle dans ce qu'ils appelaient à l'époque l'équilibre de la nature, ce qu'on appelle maintenant davantage les écosystèmes. Et donc on a un basculement qui se fait autour des années 1900 avec les premières mesures de protection des castors. En France, par exemple, c'est 1909 où les derniers castors ont été protégés dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ça a permis de sauver les derniers castors de France.
1909, en effet, le castor devient le premier mammifère à bénéficier de mesures de protection locale. Puis, c'est une espèce qui devient nationalement protégée en 1968. Les toutes premières opérations de réintroduction ont lieu en Suisse. Cécile Auberçon, on est en 1956 à peu près. Cette mouvance qui a eu lieu en Suisse a eu lieu ensuite un peu partout en Europe, en fait, par la suite.
En fait, les toutes premières, elles datent déjà de 1920. Avec des pays comme la Russie, la Suède, la Norvège, l'Amérique du Nord, qui a voulu réintroduire le castor, mais là, c'était surtout en fait pour la fourrure. Ils avaient encore cet intérêt.
Pour faire des fermes de fourrure.
Ferme à fourrure.
Pour réintroduire des castors.
Voilà, c'était leur intérêt principal. Puis effectivement, après, il y a eu cette deuxième phase entre les années 50 et 90, où là, on a commencé à vouloir réparer les erreurs, comme le disait Rémi. Et où on a voulu rendre aux rivières un ingénieur, une composante importante des écosystèmes. Et puis effectivement, alors en Suisse, on a commencé à faire ça en 1956 et ça s'est poursuivi jusque dans 1977. Et dans cet intervalle de temps, il y a 141 individus provenant de trois populations relictuelles différentes, donc de France, de Norvège et de Russie. 141 individus qui ont été relâchés sur plusieurs sites, voilà, une trentaine de sites de lâchés différents. Ce qui s'est passé, c'est que en Suisse, on avait un peu une représentation de ce que devait être l'habitat idéal pour un castor, qui collait pas forcément avec la réalité. Donc, ils ont été relâchés dans certains endroits, des zones trop hauts en altitude, qui n'ont pas forcément convenu. Et il y a eu beaucoup de mortalité sur ces 140 individus initiaux. On estime qu'il y en a 60, une grosse soixantaine qui est morte avant même de pouvoir se reproduire. Donc en fait, la population fondatrice de la population actuelle de castors qu'on a en Suisse, elle était constituée de uniquement une huitantaine d'individus, ce qui est très peu en fait.
Comment ça s'est passé également, Rémi Louglière, pour ces réintroductions en France avec le peu d'individus castors qui restaient en vie?
Alors, ça s'est passé en deux temps en France. D'abord, comme en 1909, on a protégé les derniers castors, et puis petit à petit, cette protection a augmenté. Par exemple, en 1922, les castors ont été protégés dans le département de la Drôme aussi. Simplement, le fait d'arrêter de les détruire a amené les populations à augmenter et à revenir sur beaucoup de leurs cours d'eau, dans tout le bassin du Rhône. Donc ça s'est fait progressivement comme cela. Les populations se sont confortées d'elles-mêmes, en quelque sorte. Il y a une sorte de résilience de ces populations de castors. Et puis à partir des années 1950, il y a eu ces opérations de réintroduction. La première a été en 1957, à proximité de la Suisse d'ailleurs. Les Français ont imité les Suisses de ce point de vue-là. Et il y a eu, comme cela, 26 opérations dans toute la France. Ça s'est fait d'abord de façon assez pragmatique, avec des opportunités. Vous aviez des castors dans la Drôme, par exemple, qui gênaient un agriculteur. Eh ben, les scientifiques venaient les capturer et les déplacer sur un autre territoire en France. On a eu comme ça plusieurs opérations, mais celle qui a été peut-être la plus importante pour le castor, c'est celle qui a eu lieu entre 1974 et 1976, sur la Loire, à Blois, où on a 13 individus castors qui ont été relâchés, simplement 13, et ça a permis de repeupler l'ensemble du bassin ligérien en castor, même si actuellement les populations continuent à augmenter. Donc on a ce côté un peu de terrain, un peu pragmatique, des opérations de réintroduction. Et puis à partir des années 1990, en France, ces opérations ont été beaucoup plus encadrées par l'État, avec des dossiers techniques, administratifs et scientifiques plus importants, avec une vraie procédure qui a été mise en place. Et ça a débouché, par exemple, en 1994, sur la réintroduction qui a eu dans le forêt, à côté de Saint-Étienne, là aussi de 13 castors. Voilà cette succession. Et donc, le castor se porte bien, beaucoup mieux actuellement qu'il y a 100 ans. Les populations sont plutôt en expansion.
Le castor se porte bien. Paul Hurel, nous, on vient également de vous récupérer à notre antenne et au bout du fil. Aujourd'hui, il se porte bien, les populations vont mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, un souci de génétique, justement, avec les populations à venir de castor?
Oui, bah alors effectivement, c'est un des points à surveiller, comme l'a évoqué Rémi. Voilà, on part de un très faible nombre d'individus, finalement, avec la même sous-espèce dans la basse vallée du Rhône. Donc c'est une des questions, effectivement, une vigilance qu'on a aussi au sein de l'OFB via le réseau Castor qui est quelque chose, une mission qui nous est donnée par le ministère de l'Environnement depuis 1987, de suivre la population et voilà, de regarder un peu la mortalité, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient jouer sur cet état de conservation qui est du coup jugé favorable aujourd'hui, mais à court, moyen terme, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, qu'il y ait une genre de tare génétique qui se déploie aussi dans la population, que ce soit au niveau français, mais en Suisse, il y a un peu les sujets un petit peu quand même, mais à un autre degré. Et donc, il y a une vraie surveillance aussi de voir si on a des sous-espèces, notamment depuis l'Allemagne, depuis la Belgique, qui arrivent pour permettre un brassage et un peu donner un coup de pouce à la consanguinité qu'on pourrait décrire, en fait, finalement, du fait de ces réintroductions qui sont parties d'un faible pool d'individus. Voilà, bon, après, c'est des choses qu'il faut surveiller, mais pour le moment, en tout cas, on voit, et comme l'a dit Rémi, et la répartition de l'espèce en France le traduit très bien, on a vraiment aujourd'hui une bonne répartition de cette espèce-là, qui est présente maintenant dans toutes les régions françaises et qui reconnaît progressivement finalement les différents bassins versants et qui permet d'amener pas mal de bien fondés qu'on citait tout à l'heure en début d'émission.
On continue en tout cas de pister le castor. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Cécile Auberçon, Rémi Louglia et Paul Hurel, nous parlons du castor, cette espèce clé de voûte des cours d'eau. On vient de voir que la population du castor d'Europe se porte relativement bien en Europe. Hein. On observe l'augmentation de sa population, notamment en Île-de-France, où l'un d'entre eux arpente les contrées de la rivière de l'Essonne. Pour le reportage du jour, on retrouve Céline Lozen qui a enfilé ses bottes pour parcourir les berges près de la commune de Buneau-Bonnevaux, à la frontière du Loiret. Et on suit donc la piste du castor avec vous, Céline. Bonjour.
Bonjour, Natacha. Oui, depuis des inondations survenues en 2016 dans le Loiret, un castor a dérivé jusque dans la région sud parisienne pour élire domicile sur les berges de l'Essonne. Le réseau Castor l'a repéré et a mis en place des programmes de surveillance et de prospection pour suivre sa trace. Avec Cédric Mondy, ingénieur connaissance à l'Office français de la biodiversité, nous avons retrouvé sur les berges de la rivière son collègue Cyril Kleinprince, policier de la biodiversité, pour voguer en canot à la recherche d'indices, bois coupé, garde-manger ou terrier aménagé.
On va faire une petite prospection pour voir si on retrouve des traces ou des indices du castor. Alors, je vous invite à monter. Hop. Allez-y, asseyez-vous là-bas sur le petit banc.
Bon, ici là ?
Ouais.
Alors, au niveau de l'établissement, en fait, on a organisé en ce qu'on appelle le réseau Castor, c'est-à-dire des correspondants comme Cyril et des animateurs régionaux comme moi-même dans toutes les régions et les départements où il y a le Castor. Et en fait, de plus en plus, ce réseau est ouvert aux partenaires. Et nous, en Île-de-France, en fait, c'est quelque chose qui est très important parce que le fait est que les premières traces de castor en fait, ont été découvertes par un partenaire, par le syndicat de rivière de l'Essonne. Et le fait d'avoir des partenaires mobilisés et intéressés sur ces espèces-là, en fait, ça nous fait remonter de l'information à une ampleur qu'on ne pourrait pas avoir tout seul.
Voilà. Donc ici, on voit bien ce bout-là. Alors il y a ça, mais c'est surtout là-bas, il y a un très beau crayon.
Ah oui, on voit le bout comme une mine de crayon, ouais.
Ouais,
mais un peu noirci.
Derrière vous, c'est vraiment... celui-là, on ne peut pas le rater. Là, typiquement, on est vraiment sur une taille caractéristique, c'est-à-dire en crayon, en forme de crayon, en forme de pointe. Si on s'approche, on voit bien les traces de dents, etc. C'est, voilà, ça, c'est typiquement ce qu'on recherche quand on fait une prospection sur un linéaire. On va remonter la berge en canot. On va être attentif. Là, on a une végétation qui est un petit peu dense. Mais on voit encore relativement bien. Cette trace-là, elle a un petit peu plus d'un an.
Ah, vous pouvez dire à l'œil nu comme ça, vu la couleur du bois.
Le bois s'est beaucoup assombri. Donc là, voilà. Mais de toute façon, l'année dernière, on avait relevé cette trace-là et c'était frais. Voilà. Donc là, ça a vraiment une année, quoi. Hop.
C'est bon ?
C'est bon. Là, du coup, on va remonter de l'autre côté.
Est-ce qu'on verrait des marques de dents éventuellement ? J'ai l'impression de voir des... des raclures en fait.
Oui, c'est ça. C'est ces dents qui...
Ouais, c'est impressionnant.
Les traces d'un ciseau à bois, mais un peu plus arrondi. En fait, le castor, est là, en fait, et quand il coupe des morceaux comme ça, c'est généralement pour faciliter la consommation, en fait. Donc, soit il coupe l'arbre, il le fait tomber, comme ça, c'est plus facile. Soit il coupe des branches, comme ça, qu'il peut emporter plus facilement aussi.
Alors, hop, hop, hop.
Qu'est-ce que t'as vu? Ah, le garde-manger.
Voilà. Alors, on va vérifier si ça va être bien, hein, déjà.
Ça y ressemble.
C'est qu'il y a un garde-manger dans le secteur. Il me semble que c'est toute cette
forme-là
de branches.
On voit sous l'eau, oui. 10 cm de profondeur, des branches
là,
coupées.
Là, on voit bien qu'elle est écorcée. Elle a été écorcée au niveau de ma pagaie. Là.
Hop là. Ah,
je sais même pas. Ouais, on voit bien la branche dénudée en tout cas.
Là, c'est clair.
Ouais.
Alors, c'est pas très récent.
Ouais, parce que c'est sombre encore une fois.
Ouais, encore une fois, le bois n'est pas fraîchement coupé. Hein. Mais on voit encore bien les traces dedans, le biseau. Et en fait, cet amas de branches que vous voyez là, ça constitue vraiment son garde-manger. Donc là, on peut quasi. Alors. Les traces seraient très fraîches. On aurait la certitude qu'il est là en ce moment. Oui. Voilà. Là, on va dire que ça remonte un petit peu. Ce qui serait bien, c'est qu'on monte sur la berge.
Ouais. T'as un point d'accostage, hein? T'as un point où on peut s'accoster tranquille?
Est-ce que vous tentez d'aller sur la berge?
Yes. Hop, sur la berge.
L'idée, c'est si on veut faire de l'image et que les traces sont très fraîches, on va retrouver au sol des copeaux vraiment très blancs, très propres. Donc là, on va essayer de sélectionner un endroit sur lequel on pose un piège photo pour essayer d'avoir les meilleures images possibles. Donc ici, il faudrait trouver un angle, peut-être le poser ici, en fait, pour avoir la vue sur ce qu'il est en train de faire, en fait. Mmh. Voilà.
L'objectif dirigé vers la rivière.
Non. Oh. En fait, ça s'appelle c'est un piège photo, hein. C'est un dispositif, donc on l'allume. Hop.
Et vous le disposez sur le tronc ou au pied d'un.
En fait, c'est ça, avec un piton.
Et vous le laissez tourner pendant combien de temps?
Oh, ça fait 15 jours, 3 semaines à peu près. Voilà, une fois positionné comme ça.
Ouais.
En fait, il y a une cellule qui fait que au mouvement, il va se déclencher, il va s'allumer. Il va d'abord prendre deux photos et après, il va prendre une vidéo de 20 secondes à peu près.
D'accord.
En général, on paramètre comme ça, ce qui nous permet de voir ce qui est en train de bouger devant. Quoi. Mmh. Voilà.
Ok.
Ok. Donc, juste un petit point. En fait, quand on fait une prospection et qu'on relève des indices frais, là, vous voyez, c'est très frais au niveau du bois.
Ah oui, très blanc.
En fait, on prend une photo, on prend le point GPS et on va le répertorier après. Enfin, c'est Cédric qui se charge de ça. On lui envoie toutes les infos avec je lui envoie un petit tableur Excel avec les positions, les machins. Et lui, il nous fait une belle cartographie avec les indices, les dates, les photos, etc.
En fait, je suis le maillon intermédiaire entre le travail de terrain et la synthèse nationale. C'est-à-dire que je regroupe tout ce qui se fait au niveau régional. Et je consolide un peu l'information et je renvoie ça au niveau national qui les utilise, notamment pour le rapportage dans le cadre de la directive européenne sur l'habitat faune-flore, des choses comme ça.
Alors là, on voit un enregistrement où on voit l'individu qui est vraiment au premier plan. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du toilettage?
Il fait sa toilette.
Oui, il fait un peu sa toilette, voilà. Il est juste au niveau de son réfectoire. En fait, on a la chance de l'avoir vraiment juste devant la caméra, quoi. Ouais. Donc là, je vais vous montrer des images du dernier piège.
Ouais.
En fait, ici, ce qu'on observe, là, c'est sa hutte, d'accord? On voit tout l'amas de tas de bois. Ici, il y a une coulée, juste derrière, qui va, c'est une forme d'île, en fait, on va dire. En fait, on a choisi de le placer comme ça, le piège, parce qu'on avait vu sur la hutte et en même temps sur la coulée vers laquelle il se dirige pour se nourrir, parce qu'il se nourrit aussi à côté. Voilà.
Merci Céline Lozen. Toute notre collection de reportages, La Science au Labo, est à retrouver en podcast sur franceculture.fr. Cécile Aubert, sont une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Peut-être juste un petit mot, effectivement, sur le fait, ils ont parlé de l'écorçage. Hein. On n'a pas abordé le fait que le castor est vraiment purement végétarien. Donc en été, il se nourrit de tout ce qui est vert, et en hiver, Il va manger cette écorce, en fait, avec un système digestif spécialisé pour ça.
Et avec ses dents en or, ou en fer plus exactement, Paul Hurel, ce réseau Castor surveille un autre point qu'on n'a pas encore abordé ensemble, autre souci qui pourrait poser problème autour des castors européens. On ne l'a pas dit, donc voici aussi, on l'a évoqué rapidement, il existe deux espèces de castors qui ne s'hybrident pas, le castor européen et le castor canadien. Le castor canadien aurait dû rester uniquement au Canada. Il est considéré comme une espèce exotique envahissante et un des objectifs de l'OFB est justement de surveiller l'arrivée potentielle du castor canadien.
Oui, donc voilà, c'est également dans le pan de la surveillance génétique que l'on réalise. Donc dès qu'il y a des mortalités observées sur le territoire, on va analyser effectivement génétiquement pour s'assurer qu'on est sur la présence du castor européen. Et en cas de présence du castor canadien, il y a effectivement une réglementation différente, vu qu'elle est considérée comme exotique envahissante, qui nécessite de prendre une décision de soit capturer les animaux pour les stériliser, soit de les placer en parc, soit de les réguler finalement, de les tuer. Donc ça, c'est un travail qui, pour l'instant, n'a été qui n'est arrivé qu'une seule fois en France, hein, dans les années 80, dans la puisée dans l'Yonne, où on a vu quelques castors canadiens qui s'étaient échappés d'une captivité. Mais aujourd'hui, sur la France, on n'a que du castor européen, mais on guette effectivement l'arrivée potentielle de castors canadiens depuis notamment le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, où on a quelques individus de présents, avec pas mal de questions, hein, forcément, qui se posent au-delà de ce classement différent entre une espèce protégée et une espèce exotique envahissante, avec finalement deux espèces de castors qui sont très proches l'une de l'autre et qui soulèvent beaucoup de questionnements sur le rôle que le castor peut avoir dans l'habitat et dans le cycle de l'eau notamment. Donc c'est des vastes sujets. En tout cas, on les surveille via le réseau Castor, oui.
Rémi Loulia, pour conclure, est-ce que le sujet de la réintroduction des castors est un sujet parfois délicat à porter ?
Oui, effectivement, puisque le castor est un animal qui peut, par son action, gêner les humains, et donc certains de nos concitoyens subissent un certain nombre de dommages et légitimement demandent que ça soit un peu pris en compte. Et là, je pense qu'il y aurait des actions collectives pour venir en aide aussi à pour résoudre ces problèmes-là, même si l'OFB fait beaucoup de travail pour justement apaiser ces relations. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que je constate, et le reportage le montrait bien, que les castors, comme beaucoup d'êtres vivants, font énormément d'efforts pour s'adapter à un monde que les humains ont façonné, mais énormément et minutieusement. Vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour continuer à vivre dans ce monde-là. Moi, je trouverais intéressant que nous, humains, on réfléchisse un petit peu à notre action sur le monde et qu'on comprenne qu'on n'est pas les seuls à habiter la planète et qu'il conviendrait de laisser un peu de place, hein, un petit peu de place supplémentaire à toute cette biodiversité qui a besoin de cet espace pour vivre et pour déployer leur existence. Donc pour moi, c'est presque un message philosophique que j'aimerais adresser à chacun, c'est de nous questionner sur notre place dans le monde et l'existence des autres.
Cécile Auberçon, pour conclure sur cette pensée, cette philosophie du castor.
Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec Rémi. Après, il faut aussi voir la réalité. On est dans des paysages qui sont très très anthropisés, où il y a beaucoup de monde et on ne va pas pouvoir faire sans une gestion au moins minimale d'espèces.
En tout cas, on a bien retenu les leçons que les castors ont à nous apporter pour le bienfait des écosystèmes et sur le fait que ce sont de sérieux ingénieurs. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour prolonger l'écoute, rendez-vous en bibliothèque ou en médiathèque avec l'ouvrage de Cécile Auberçon, Les mille vies du castor aux éditions Salamandre en 2024 et celui de Rémi Louglia, Vivre en castor, histoire de cohabitation et de réconciliation, paru en 2024. Tout de suite, un tout autre sujet, comment se vacciner contre la désinformation, c'est la chronique avec science.
Comment se prémunir des fausses informations ? Il y a quelques mois, le géant des réseaux sociaux Meta déclarait mettre un terme à la modération sur ses plateformes et à sa politique de vérification de l'information. L'objectif affiché était de promouvoir une liberté d'expression totale à l'américaine. Mais le danger de ce choix, c'est bien sûr de voir croître sur les réseaux sociaux la diffusion de fausses informations, des fake news. Et c'est un risque très concret qui touche à la santé lorsqu'il remet en cause les vaccins, par exemple, qui touche aussi à l'écologie ou encore à la vie démocratique. démocratique des États. Alors, que faire face à ces attaques contre le réel? D'abord, le fact-checking, c'est un anglicisme qui désigne le fait de vérifier la véracité de l'information. C'est un procédé très pratiqué dans les médias traditionnels, mais qui intervient après la diffusion d'une fausse information. L'autre stratégie, c'est de former le public à les reconnaître. Sur le principe du vaccin, on expose les personnes aux stratégies de désinformation pour les y préparer. Mais qu'en est-il de l'efficacité sur le long terme de ce vaccin informationnel, en quelque sorte? Eh bien, c'est ce qu'on cherchait à estimer les scientifiques dans cette publication parue dans Nature Communications. Wim de Nys est directeur de recherche CNRS à l'université Paris-Cité. Il est spécialiste du raisonnement et de la prise de décision.
L'équipe d'Oxford, de Van der Linden, ils ont publié 22 papiers qui ont montré que ça marche. Mais ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est montrer que ça marche au long terme. Et c'est ça la question critique. Imaginez-vous que à l'école, par exemple, si on va apprendre quelque chose aux élèves, mais après une semaine ou deux semaines, ils ont oublié ce qu'ils ont appris, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, dans la dernière publication, ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment mesuré, après un mois, est-ce qu'il y a encore un effet? La plupart des études qui sont publiées, bah, au moins dans les grands journaux à ce moment-ci, souvent sont des grands échantillons qui sont représentatifs pour la population. Alors ça, c'est vraiment un grand avantage des dernières années. C'est vraiment un atout, quoi.
Et un atout d'une taille considérable puisqu'ils ont inclus près de 11 000 personnes dans leur étude. Les scientifiques ont testé 3 modes d'inoculation de ce vaccin informationnel. Ils envoyaient au hasard aux participants un texte, une vidéo ou un jeu vidéo. L'idée des deux premiers cas était d'expliquer les différents types d'arguments fallacieux qu'on peut retrouver dans la désinformation suivie d'exemples concrets. En revanche, dans le jeu, on proposait aux participants de produire eux-mêmes une fausse information en se servant des techniques enseignées. Pour évaluer l'efficacité des trois dispositifs, les chercheurs ont mis au point un test à réaliser avant la formation, un autre juste après et puis un dernier effectué un mois plus tard. Alors, est-ce que ça marche tout ça? Eh bien, ils ont remarqué une amélioration de 5 à 10% de la capacité moyenne à détecter ces informations erronées. Ça semble très peu, hein, mais selon les auteurs, vu des millions de personnes exposées chaque jour à des informations mensongères, eh bien 5 à 10% c'est déjà absolument énorme. Le problème en revanche, c'est qu'au bout d'un mois, les effets positifs commencent à diminuer.
Après un mois, les gens sont toujours encore meilleurs qu'avant l'entraînement, mais moins bien qu'immédiatement après l'intervention. Ils ont essayé de renforcer vraiment l'efficacité de l'intervention en présentant plusieurs entraînements. Et ce qu'ils ont vu, si tu fais plusieurs de ces entraînements courts, qui ne prennent que 10 minutes, ils voient qu'après un mois, l'effet ne diminue pas. Et l'effet reste là. Les gens sont toujours ce qu'ils ont appris immédiatement après l'entraînement. Si tu regardes la justesse de leurs évolutions, ils restent au même niveau. Et ça aussi, ils le vendent très bien. Ils appellent ça des « booster shots ». Mais en théorie, le principe est très simple. C'est ce qu'on fait tout le temps dans les écoles. Si on va demander aux profs, si on veut apprendre aux élèves de faire des fractions, par exemple, bah, on ne va pas présenter ou expliquer ce que les élèves doivent faire une seule fois. Ah, mais non, on va le faire plusieurs fois. Et on sait qu'il y aura voilà, une mémorisation supérieure aux répétitions de l'apprentissage, de l'entraînement.
On peut donc imaginer une généralisation de ce type d'outils pour former le grand public. C'est d'ailleurs ce à quoi s'emploient les auteurs, hein, en mettant en ligne des vidéos de formation et puis leur jeu nommé Get Bad News. Je vous mets les liens sur le site de France Culture. Enfin, ici, ce sont des adultes qui sont étudiés, mais il ne faut pas oublier les adolescents, très exposés aussi aux réseaux sociaux, et qu'il serait très intéressant de pouvoir former à la détection des fausses informations. D'autant plus qu'on possède en France un outil absolument formidable pour diffuser des formations à très grande échelle et de manière très efficace, c'est l'école.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.